Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression afin de vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout à vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, place aux blessures d'enfance. Nous pouvons blesser ou être blessés dès la toute petite enfance. Les conséquences peuvent être graves. Mal-être, comportements à risque, agressivité, addiction, manque de confiance en soi. La bonne nouvelle annoncée dans le livre « Écoute la petite musique du Clos des Anges » de la psychopraticienne Ondine Kayat aux éditions Solar, c'est que l'on peut guérir de ces blessures psycho-affectives une fois qu'on les a identifiées. Et son roman nous aide justement à les reconnaître, présentant ainsi un double intérêt. Celui de conduire vers la guérison les personnes blessées et celui de faire prendre conscience aux parents des comportements qui peuvent se révéler traumatisants pour leur enfant. Les traumatismes entravent le développement de la personne, mais rien n'est irréversible. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Ondine Kayat, qui va nous aider en 3 épisodes à mieux comprendre ce qu'est une blessure d'enfance. Comment on les identifie? Comment se réactive-t-elle dans nos vies d'adultes? Quelles sont les conséquences d'une blessure qui n'est pas soignée à temps? Et comment guérir de ces blessures d'enfance? Ce sont ces questions que nous avons posées à Ondine Kayat. Bienvenue à tous dans le premier épisode consacré aux blessures d'enfance. Bonjour Ondine.
Bonjour Amal.
Alors, les blessures d'enfance, c'est quoi une blessure d'enfance?
Les blessures d'enfance, c'est ce qu'on traverse quand on est enfant et qui entrave notre développement et notre croissance. Donc ça peut être un événement, des remarques qui sont entendues, une insécurité, un divorce, séparation, une mort, enfin tout ce qui fait qu'à un moment donné, on ressent un choc et qui nous fait souffrir. Et après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance ?
D'accord. Donc, alors, les différents types de blessures d'enfance, vous parliez de mort, de divorce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y a les séparations amicales, c'est-à-dire déjà à un âge assez petit, il peut y avoir des trahisons d'amitié, il peut y avoir des humiliations, des moqueries sur notre poids, notre physique. Il y a aussi une grande sensibilité. Donc on n'a pas tous la même sensibilité. Et dans les blessures d'enfance, il peut y avoir très jeune une hypersensibilité à l'environnement qui n'est pas prise en compte par l'entourage et qui fait que l'enfant va entendre qu'il est faible, qu'il n'est pas courageux, arrête de geindre, ou des propos plus anodins en fait, mais qui peuvent nous rester et venir nous donner très jeune une image de nous-mêmes qui commence à nous faire souffrir et qui, si ce n'est pas pris en charge, va grandir en même temps que nous.
D'accord. Donc en même temps que nous, donc, quid de l'impact sur sa vie d'adulte? Qu'est-ce que ça veut dire une blessure d'enfance non soignée ou réparée sur sa vie d'adulte?
C'est un peu, en fait, si on imagine, parce qu'une blessure d'enfance, ce que je viens de décrire, c'est un petit peu éthéré. Si on pense à ça comme une blessure physique, si j'ai une fracture, soit c'est pris en charge rapidement et je suis plâtrée ou opérée, j'ai une convalescence et après je remarche normalement, soit c'est pas le cas et là on voit bien que ça va me poser un problème. Donc la blessure s'infecte et ça devient un handicap. Donc pour les blessures d'humiliation, les divorces, tout ce que je viens de citer, c'est un peu la même chose, sauf que ça ne se voit pas forcément. Donc, si ma blessure n'est pas prise à temps par mon entourage, quand je suis enfant, je grandis avec une blessure qui s'infecte. Ça ne se voit pas en apparence. Et j'ai un abcès. Et ça, c'est dans le psychisme que ça se passe. Donc, il y a une douleur, c'est comme un mal de dents, mais au cœur ou à l'âme. Et ça me fait mal et ça m'expose à des fragilités, à des rencontres ensuite à l'âge adulte qui vont venir taper exactement dans mes zones de fragilité. Et en fait, dans nos vies, on a soit un entourage qui cherche à nous éviter la souffrance, donc qui nous protège pour qu'on ne souffre pas, soit... C'est un peu caricatural, mais c'est pas totalement faux, soit qui nous fait mal. Et en fait, c'est assez difficile d'avoir un entourage qui est lui-même suffisamment, c'est-à-dire des parents suffisamment au clair avec leurs propres blessures pour pouvoir supporter les blessures de ses enfants, vous voyez, sans chercher à éviter la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut pas... éviter, on ne peut pas éviter la souffrance à nos enfants. Et c'est aussi comment on les aide à la traverser. Donc, c'est assez compliqué, quand on est enfant, d'avoir en fait un entourage qui a une attitude juste avec les épreuves de la vie. Là, je parle par exemple le décès de quelqu'un, un divorce. Vous voyez, les choses que l'enfant vit, ça peut être aussi du harcèlement, des situations de la vie ou des déceptions amicales où l'enfant rentre, où il pleure, où il est mal. Et à ce moment-là, en tant que parent, on va avoir tendance à vouloir éviter à l'enfant cette souffrance. Parce qu'elle est insupportable pour nous. C'est injuste, ça nous renvoie aussi à des choses. Donc c'est comment je fais pour aider mon enfant à traverser ce qu'il a à vivre, en fait, tout en le soutenant. Et c'est assez difficile. Et de l'autre côté, je le vois au cabinet, des patients qui ont des entourages qui les ont blessés, harcelés, parfois plus graves, vous voyez. Donc c'est souvent entre ces deux extrêmes, en fait, qu'on avance dans la vie. Et ça a un impact, évidemment, sur la façon dont, adultes, on gère notre propre souffrance.
D'accord, hyper intéressant. Alors, comment on fait en tant que parent quand on doit gérer effectivement un changement, la souffrance de son enfant suite à un divorce, par exemple? C'est quoi l'attitude juste, par exemple?
L'attitude juste qu'on peut avoir par rapport à la souffrance de nos enfants, c'est d'une certaine manière l'attitude juste qu'on peut avoir avec notre propre souffrance. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple du divorce, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on divorce. C'est-à-dire qu'il y a la relation homme-femme qu'on a donc avec notre mari, et puis comment je reste une mère avec mes enfants qui vont continuer à avoir leur père. Donc il y a plein de choses qui se mélangent en fait. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je peux en vouloir à celui avec lequel dont je divorce, et en même temps, il est le père de mes enfants. Et c'est ces zones-là qui se mélangent souvent et dont les enfants font les frais. Parce qu'en fait, en tant que femme, j'en veux à mon mari, mais en tant que mère, j'assiste au fait que mon enfant, il va voir son père et il peut être très content. Et ça me fait mal. Donc, en fait, c'est vraiment toujours les zones de confusion qui provoquent la douleur. Donc, si je suis au clair avec le moment où je dois être une femme, le moment où je dois être une mère, c'est compliqué, mais ça clarifie les choses. Et en fait, si j'arrive, moi, à mettre des mots sur ma souffrance, je vais pouvoir en mettre sur la souffrance de mon enfant. Et là, un des effets des blessures d'enfance, pour les adultes, pour nous quand on est adulte, c'est aussi que quand elles se rejouent pour nos enfants, c'est ce à quoi elles nous renvoient nous-mêmes. Et c'est là qu'on vient en soutien pour éviter la souffrance à notre enfant, là où en fait, c'est important d'accueillir la douleur et d'aider l'enfant à mettre des mots sur sa douleur. C'est en fait, le mot est un contenant. C'est comme si la douleur, c'est de l'eau, et le verre, c'est le contenant, en fait. Et le contenant, il permet d'entourer la souffrance pour éviter l'inondation. C'est un peu ça, si je donne une image. Donc, pouvoir mettre des mots, dire à son enfant, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu aimerais? Voilà, c'est important pour qu'il ne se sente pas débordé.
D'accord. Et en tant qu'adulte, comment se manifeste pour les enfants qui ont les blessures d'enfance qui n'auraient pas été prises en charge à temps, en tant qu'adulte, comment je sais que j'ai quelque chose à réparer, que j'ai une blessure intérieure à réparer, comment ça se manifeste chez moi, quels sont les symptômes qui me disent que, bon là, stop, il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que ça ne va pas.
Il y a des souffrances, j'allais dire, qui sont évidentes parce qu'on s'en souvient. Donc, on a vécu des épreuves qu'on connaît. Donc, déjà, il y a une identification. Et il y a des souffrances qu'on ne connaît, enfin, qu'on a oubliées et qui ressortent par un mal-être. Donc, déjà, c'est deux choses différentes. Après, quand on. En fait, le dénominateur commun entre tout être vivant, c'est la même chose pour les animaux, dès qu'on souffre, la première chose qu'on cherche à faire, c'est d'éviter de souffrir. Donc, d'adopter un comportement d'évitement pour ne pas ressentir. Donc, quand on a une blessure assez jeune, c'est un peu le même comportement. On va essayer, par contre, enfant, de se tourner vers son entourage, de demander de l'aide. Et si on ne peut pas l'obtenir, on va développer malgré soi, c'est un processus inconscient, une façon de faire parce qu'il faut continuer. Donc, on commence à avoir un comportement de compensation ou d'évitement, et à l'âge adulte, on continue en fait. Donc, ça peut être des comportements d'addiction, du sport à outrance, des problèmes alimentaires, voilà, y a toutes sortes de façons en fait d'essayer d'éviter de souffrir. Et ce processus, il nous éloigne de plus en plus de nous-mêmes. Donc, c'est comme si en fait, à l'intérieur de nous, on a une maison avec plein de pièces, et si enfant, dans une des pièces, il s'est passé quelque chose, une blessure qui nous a fait très mal, eh ben, on ferme la pièce, on va dans une autre pièce, et en fait, si ces blessures s'additionnent parce qu'on n'a pas le temps de les prendre en charge, on finit par vivre à l'intérieur dans une maison où on ne peut plus aller que dans une seule pièce, et en faisant le tour, en passant par le toit, le grenier, et donc en fait, on est piégé à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est le moment où les gens viennent en général en thérapie. C'est le moment où ils ne peuvent plus supporter ce qu'ils ressentent malgré les comportements d'évitement. Alors il y a des gens aussi qui viennent parce que ils ont envie de comprendre une situation précise. Donc ça aussi ça arrive. Donc là on est plus dans le cadre d'entretien d'aide, je dirais plus ponctuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en disant bah voilà, petite, j'ai vécu ça, j'ai une relation affective qui est comme ça, je sens que ça a un lien, est-ce que vous pouvez m'aider à y voir plus clair? Donc là, on fait les ponts, etc. Mais il y a des gens qui viennent qui sont dans une souffrance beaucoup plus grave, qui ont perdu le contact avec eux-mêmes, qui ne se ressentent plus, ou qui ont des attaques de panique, des choses qui font qu'à un moment, ils peuvent plus supporter d'être à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, on est dans une psychothérapie, un travail qui est un peu plus profond et qui peut être un peu plus long. Vous voyez?
D'accord. D'accord. Alors, on a chacun et chacune des façons différentes de réagir à la douleur. Quels sont, vous aujourd'hui, par rapport à l'époque dans laquelle on vit, les blessures qui reviennent le plus souvent, que vous rencontrez le plus souvent?
Alors, il y a des blessures. Alors, il y a déjà deux situations. Il y a des gens qui viennent et qui vivent une blessure au présent. C'est-à-dire qu'une rupture affective, elle est ou un deuil, c'est des choses qui sont douloureuses de toute façon. Et même quand on a eu une enfance heureuse. Donc là, c'est passer un cap. Par contre, quand on vit un deuil, une rupture affective ou d'autres choses, du harcèlement, des gens qui viennent, qui sont épuisés en burn-out, sur un terrain qui est fragile, là, ça a un autre impact. Donc, ce que je vois moi au cabinet, en ce moment, on est dans une période où les gens sont très angoissés. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe sur l'angoisse financière, qu'est-ce que je vais devenir. Il y a vraiment un manque de sécurité intérieure qui est très très fort actuellement. Et il y a aussi des personnes qui sont dans des comportements d'addiction, qui sont très éloignées d'eux-mêmes, donc qui sont accros à leur téléphone, qui sont accros à des. Là, c'est une addiction sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, et ça renforce l'angoisse. angoisse, voir les gens qui, soi-disant, ont une meilleure vie, font mieux, etc. Donc ça, c'est... Et après, il y a les gens qui viennent avec des blessures d'enfance, des blessures ou des traumatismes, parce qu'on n'est pas dans la même chose. Le traumatisme, c'est quelque chose qui a porté atteinte à un moment donné à mon intégrité physique ou psychique. Donc là, je vois des abus sexuels, notamment, il y en a un certain nombre, hommes et femmes. Et donc là, on est encore dans autre chose que la blessure, vous voyez ? Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est de comprendre ce qui nous est arrivé. Et si on n'arrive pas à disons à le soigner, à l'apaiser seul, c'est de pouvoir demander de l'aide. Voilà. Mmh. Mais moi, au cabinet, je vois des gens qui ont vécu des blessures dans leur enfance. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui viennent en me disant « Mais je me sens pas bien, mais en fait, je n'ai rien vécu de grave. » Il y a juste ma grand-mère ou un tel qui est morte quand j'étais petite, ou j'ai juste mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans, mais enfin, par rapport à d'autres gens, j'ai rien vécu. Donc, il y a aussi une espèce dans leur tête, comme s'il y avait une hiérarchisation, une hiérarchie de la souffrance, où des personnes qui ont vécu quelque chose de très grave, eux, ils ont le droit d'avoir mal. Et moi, si j'ai vécu, entre parenthèses, entre guillemets, que un divorce, j'aurais pas le droit. Et ça, ça a des effets assez pervers sur les personnes parce qu'elles culpabilisent leur souffrance. Donc c'est ça aussi que je voudrais dire, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Il y a proportionnellement des choses qui sont plus graves. Mais ce que je remarque, c'est qu'une blessure grave prise à temps aura un impact moindre qu'une blessure en apparence moins grave qui est laissée sans soin. Vous voyez ? C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu un truc très très grave dans son enfance et qui a eu un entourage qui l'a soutenu, qui a pu désinfecter la plaie à temps, ouvrir un espace de parole, etc., bah, cette personne, elle peut aller beaucoup mieux dans sa vie que quelqu'un qui a vécu un divorce qui peut être considéré, parce qu'il y en a beaucoup, comme moins grave, mais qui a été laissé seul dans cette perte de sécurité. Mmh. Donc c'est vraiment... il faut faire attention à la hiérarchie dans la souffrance, parce que ça dépend beaucoup de notre sensibilité et de l'entourage qu'on a eu. Et est-ce que la blessure a été soignée à temps ou pas ?
D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire soigner à temps la blessure, concrètement ? Est-ce que c'est concomitamment à la blessure ou est-ce que ça peut être quelques années plus tard ? Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de temps ? En fait, j'ai du mal à la saisir.
Bah, en fait, c'est un peu comme si vous faites mal à la main, mm-hmm, et que vous avez la chair à vif. Si vous laissez sans soin la blessure, il y a un risque qu'elle s'infecte. Donc, quelques années plus tard, vous pouvez aller jusqu'à l'amputation. Enfin, je vous donne ça pour schématiser. Mais psychiquement, c'est pareil. Si vous avez une blessure et qu'elle n'est pas identifiée, si on ne la désinfecte pas, si on ne met pas de la crème apaisante, des pansements, etc. sur votre blessure, elle va avoir du mal à cicatriser. Donc, d'accord, en fait, la notion de temps, c'est le fait de pouvoir mettre des mots rapidement sur ce qui est vécu. Donc un divorce, une séparation, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'un enfant peut traverser, mettre des mots, nommer, ouvrir un espace de parole pour qu'on puisse dire ce qu'on a à dire et ce qu'on ressent profondément en nous. Si je prends l'exemple dans mon dernier roman de Raphaël, qui perd son père à l'âge de 39 ans, elle a grandi avec lui jusqu'à l'âge de 10 ans dans une maison à Giverny. Il ne l'a jamais aimée, donc elle a une totale blessure d'abandon, elle a pas été aimée du tout, et elle a été laissée complètement seule dans son enfance. Donc en fait, elle a grandi avec une image d'elle-même catastrophique, des grandes fragilités affectives, et comme elle n'a pas pu mettre de mots, personne n'était là pour elle, elle a grandi dans une grande insécurité. Et c'est à ce moment-là qu'elle a développé des comportements. Elle est peintre, donc la peinture lui sert à anesthésier sa douleur. Mais quand son père meurt et qu'elle a 39 ans, elle ne le voyait plus depuis 15 ans, elle ne peut plus créer. Donc elle est au pied du mur, en fait. L'art qui fonctionnait comme une anesthésie ne fonctionne plus. Donc les blessures remontent. Donc c'est toujours dangereux de ne pas prendre en compte les blessures qu'on a.
Eh bien, c'est un peu une bonne transition pour le prochain épisode sur quand notre passé s'invite dans notre présent,
ouais.
La conjugaison des temps.
Mmh.
C'est ce qu'on verra dans le deuxième épisode de soigner ses blessures d'enfance. On dit merci beaucoup.
Merci
à vous. Et à bientôt.
Ouais.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je rappelle le titre du dernier roman d'Ondine Kayat, « Écoute la petite musique du Clos des Anges, guérir de ses blessures d'enfance » chez Solar Éditions. Je vous dis à très vite pour le deuxième et avant-dernier épisode sur les blessures d'enfance, épisode dans lequel Ondine nous aidera à mieux comprendre l'impact de nos blessures passées sur nos choix présents. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !